Thomas Virvinski, vous êtes le directeur adjoint du musée Matisse situé au Cateau-Cambrésis. Le 150e anniversaire de la naissance de Matisse est la copie. Mais Matisse, c'est une copie de quelqu'un ou de quelque chose? C'est qu'avant que d'être professeur, et avant même d'être libéré par la suite de toute contrainte, il a été élève. Et pour cela, il a, comme tout le monde, ses classes, on peut dire.
Tout à fait, et notamment le Louvre, parce qu'il ne faut pas oublier que le Louvre, à l'origine, a été créé pour les artistes, et pas pour le public. Donc, le public, il avait quelques heures par semaine pour visiter le Louvre, mais le musée était habité par les artistes et par les chevalets. Même les salles, d'ailleurs, étaient encombrées de chevalets pour apprendre la copie. Et il faut savoir que le métier de copiste à cette époque était majoritairement un public féminin. Donc les femmes gagnaient leur vie par la copie. Et Matisse a décidé aussi de faire ses classes au Louvre en étudiant les plus grands maîtres, dont Chardin.
Voilà, alors il n'y a pas que Chardin, parce qu'on dit toujours il n'aurait pas été Matisse s'il n'avait pas fait la copie de la chasse en 1894. D'après Hannibal Carrache. Est-ce bien vrai cela? Il faut savoir d'ailleurs que cette œuvre a été présentée au Tripostal à Lille.
Alors oui, c'est une pièce qui nous est prêtée par le musée de Grenoble. Alors que ce soit la chasse effectivement qui est une pièce majeure, mais également je reviens sur Chardin parce que le public a tendance à l'oublier, et c'est tout à fait légitime, mais les tableaux de Chardin, et notamment l'Arrêt, étaient le tableau le plus regardé au Louvre, bien avant la Joconde. Donc aujourd'hui, on vient, enfin depuis d'ailleurs de nombreuses années, au Louvre pour voir la Joconde, alors qu'auparavant, on venait voir l'Arrêt. Et c'est toute une réflexion sur deux tableaux majeurs de Chardin qui vont quand même faire basculer Matisse, à la fois le Buffet et l'Arrêt, qui sont deux natures mortes qui, premièrement, vont célébrer la reconnaissance de Chardin auprès de ses pairs. Et Matisse va quand même s'appuyer sur ces deux tableaux majeurs de la carrière de Chardin pour faire ses classes.
D'accord. Alors, Ingres n'avait cesse d'enseigner la nécessaire pratique de la copie au grand maître. Est-ce bien vrai? Et il leur disait comme ça: « Adressez-vous donc au maître, parlez-leur, ils vous répondront, car ils sont encore vivants. Moi, je ne suis que leur répétiteur. » Donc ça veut dire quand même que quand on copie, on vit intensément. On la vit autrement, cet homme, on la vit.
C'est fort intéressant parce que le travail de copiste, c'est rentrer dans... Et puis, on le voit dans cette citation dingue, il y a un côté assez mystique. C'est-à-dire qu'on doit être connecté avec l'artiste, avec son ressenti, avec son passé. Et il y a presque une fusion qui est réalisée entre l'élève et l'artiste d'origine pour saisir le mélange des couleurs, la subtilité des nuances. Et tout ce travail-là, effectivement, est une connexion beaucoup plus subtile que technique qu'il faut appréhender.
Alors, vous nous parliez effectivement de Matisse qui a bien copié Chardin, mais il a aussi copié d'autres peintres que Raphaël, Poussin, et aussi les peintres flamands qui ont été aussi importants pour lui, je crois.
Alors, c'est un travail qui va mener quand même pendant presque 10 ans, donc c'est assez long, et c'est une dissociation qui est très intéressante. C'est qu'il dit dans sa biographie, il est cité que le matin c'est le Louvre et l'après-midi c'est à l'extérieur. Donc il y a quand même une association qui est très intéressante et qui vient de son maître Gustave Moreau, qui lui dit mais surtout allez voir les maîtres, mais n'oubliez pas ce qui se passe dans la rue. Et Matisse crée comme ça ce ping-pong quotidien entre ce qu'il se passe au Louvre avec les maîtres anciens et la rue.
Les quais de Seine.
Avec les quais, notamment on le voit avec les scènes de carriole, ces scènes de café-concert, où il faut croquer très rapidement la vie.
Bien. Alors, donc là, vous avez évoqué un peu, je dirais, la copie d'avance dans l'enseignement. D'invention. Alors aujourd'hui, la copie, ça se passe comment?
Alors, c'est fort intéressant parce que l'enseignement de la copie n'a plus lieu dans les écoles d'art. on n'apprend plus du tout aux étudiants les techniques traditionnelles de peinture à l'huile. On est beaucoup plus sur une volonté de développer sa propre plasticité et également son propre langage et propos artistiques que passés par les maîtres anciens. On se rend compte également qu'au niveau de la copie, ces élèves, en tout cas pour certains, qui sortent de l'école d'art et même de l'école d'art de Paris, vont apprendre la copie en atelier. Donc il y a un retour comme ça de l'enseignement de la copie en allant justement avoir des cours par des copistes, parce qu'il faut savoir que la copie est très intéressante au niveau de l'enseignement. Le Louvre accorde 30 chevalets tous les 3 mois sur présentation d'un dossier afin d'être dans les salles et reproduire gratuitement une œuvre de leur collection.
Bien. Alors, là, vous nous parlez en fin de compte de la copie dans l'enseignement d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais se développe aussi tout à fait autre chose, là, qui a peut-être non plus un avenir artistique, mais c'est la production de masse, la copie de masse qu'on retrouve au niveau de la Chine, par exemple, au niveau des artistes chinois, on peut le dire comme ça ou pas ?
Oui, il n'y a aucun propos déplacé, puisque c'est un village qui s'appelle Dafun, qui est réputé depuis plus de 15 ans maintenant sur le travail de copie. Alors, il y a eu, pour retracer un petit peu ce parcours, il y a eu un abandon de la copie, notamment avec l'arrivée de la photo. Où tout d'un coup, beaucoup d'artistes ne gagnaient plus leur vie en vendant des reproductions de tableaux. Et puis, il y a eu un regain, notamment dans les années 80, dans les années 90, sur cette volonté d'avoir chez soi une peinture, quand même, une peinture sur toile, et ce grand retour, et cette diffusion de masse des tableaux de Van Gogh. Eh bien, pour satisfaire cette demande assez forte, il y a eu l'émergence en Chine de ce village. Oui, vous avez une production évidemment colossale de tableaux de Léonard de Vinci, de Chardin également, de Van Gogh qui est l'artiste le plus vendu au niveau de la copie. Et le rapport à l'œuvre est tout à fait différent parce que on passe une commande à l'autre bout du monde. On ne sait pas du tout qui a réalisé le tableau, et le tableau, la copie notamment, devient un objet de consommation. Et non pas une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'on va la garder chez soi 2-3 ans, puis au bout d'un moment, ben, on peut la jeter, vu la valeur, puisqu'on peut avoir une copie pour 10-15 euros, bon, c'est pas très intéressant, et puis quand elle est passée de mode, on s'en débarrasse. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur un rapport à l'œuvre d'art, mais plutôt à l'image.
D'accord. Alors, est-ce que l'État joue encore un rôle important au niveau donc, de l'achat de copies d'artistes prometteurs? Est-ce que là aussi, il y a encore quand même une dynamique où ça aussi, malheureusement, avec les temps qui changent, ce phénomène-là s'amoindrit?
Alors, à l'époque, effectivement, de Matisse, l'État passait commande de copies parce que l'idée était d'enseigner le regard en province. Donc il fallait diffuser auprès des musées des provinces les tableaux des grands maîtres du Louvre. C'est notamment pour ça que l'État a acheté le Buffet, la copie donc de Matisse de l'œuvre de Chardin, tout à fait, pour qu'elle soit diffusée, notamment à Montélimar, pendant de nombreuses années. Donc il fallait enseigner le bon goût. Aujourd'hui, l'État n'achète plus de copies, c'est plus du tout la ligne qui est lancée. Par contre, avec les fracs, vous en avez différents, vous en avez plusieurs en France, et la région des Hauts-de-France bénéficie à titre exceptionnel de 2 fracs, il ne faut pas l'oublier, hein, le frac Grand Large à Dunkerque et le frac d'Amiens, pour acheter justement auprès des jeunes artistes, des artistes émergents, qu'ils trouvent de qualité leur production plastique. Et les fracs ont cette mission et ce devoir de diffuser le plus largement possible ces productions et valoriser ces artistes émergents.
Eh bien, Thomas Wierbinski, on aura l'occasion de se retrouver sur les ondes de Radio Campus. Thomas, vous aurez l'occasion d'animer en janvier un colloque sur la copie. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à la prochaine fois.